La bande passante.
La bande passante. Nicolas Benita, Alain Pilot.
Le téléphone haut et un bond, ou encore la maison près de la fontaine. Nous allons évoquer en ce début de semaine ce contrebassiste, bassiste, chanteur, auteur, compositeur qui voulait être noir et qui, un jour sombre de 1998, a décidé d'en finir avec la vie. Bettina Key, alias Ornette, et Denis Colin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à l'initiative du disque Univers Nino, respectivement chanteuse, claviériste et instrumentiste, chanteur à faune, clarinettiste, basse. Nino, en deux mots.
Vous l'avez très bien présenté là tout de suite avec toutes ses fonctions, et puis je dirais principalement poète, amoureux de la musique.
Avec vous, nous allons nous promener dans la rue déserte à la Rua Madureira, sans oublier Spa, où en pleine fête nationale se sont installés les 21e Francofolies belges, commentés pour la bande par notre correspondant québécois Philippe Renaud. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique australe à tous les étages.
Comme je fais des chansons différentes suivant les humeurs du jour, comme vous pouvez avoir envie de manger des spaghettis un jour et de la pizza le lendemain, moi il me vient un jour une chanson d'amour et le lendemain une chanson gay ou triste ou engagée suivant ce qui se passe dans le monde et ce que je ressens. Alors finalement les gens savent pas très bien qui je suis.
Qui vont trouver.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Et toujours en été.
Le sud de Nino Ferrer en 1975, dont le titre original était The South. Deux ans auparavant, il fait l'acquisition d'une maison de style colonial aux portes de Paris, La Martinière, qui lui donne l'idée du texte de ce morceau, adaptation d'un titre brésilien. La photo de la pochette du 45 tours est prise dans son jardin avec Radia Fry, chanteuse, poétesse, parolière, comédienne et mannequin d'origine américaine, mère de Mia Fry. Elle est prise donc dans ce jardin. Le sud est un énorme succès via et qui va lui rapporter beaucoup. Pourquoi ne figure-t-elle pas au générique de votre disque Univers Nino? De Nicolas. Et Ornette pour le rire.
C'est une chanson assez délicate à manier. On l'a travaillée.
On la joue deux fois en concert.
On la joue deux fois. Elle fait partie de notre répertoire.
C'est ça en fait. C'est que c'est une chanson qui est très 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 belle. L'enregistrement original est. Je veux dire, inimitable, enfin, c'est très difficile de le refaire. Et donc, on avait une première version qu'on fait, qui est quasiment acoustique. Et on a voulu en faire une autre, et ne sachant que choisir, on ne l'a pas mise.
Voilà.
Voilà.
Une aventure qui débute dans les années 30 grâce au grand-père de Denis, qui travaille dans la même usine d'extraction de nickel en Nouvelle-Calédonie que le père de Nino Ferrer. Nino publie ses premiers disques en 1963. Il continuera jusqu'au milieu des années 90, mais au fur et à mesure, il se retire de la scène musicale pour se retrouver en famille dans le Quercy et s'adonner à la peinture. À ses débuts, il fut le guitariste de la chanteuse Nancy Holloway. Denis lui a joué notamment avec la chanteuse Gwen Matthews et aujourd'hui avec Ornette et quatre autres comparses qui nous font découvrir ou redécouvrir une partie du répertoire de ce cousin éloigné à jamais, artiste au caractère parfois de cornichon.
La 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 la
en session RFI, Denis Colin et Ornette les Cornichons, Ornette au chant et au clavier, Denis Colin à la clarinette, clarinette basse, et puis Antoine Bergeot à la trompette, Julien Homais à guitare, Théo Girard à la basse, François Merville à la batterie. Ils seront demain en concert à Nevers en Bretagne, et puis le 13 novembre à Épernay, et le 20 Boulogne à Novembre-sur-Mer, c'est ça, donc à Boulogne-sur-Mer le 20 novembre. Ces cornichons qui nous ont donné faim, on passe à la cuisine. Et juste avant de vous lancer dans la transformation des cornichons de Nicolas, vous avez trempé là-dedans. Niger, sur votre album Clarinette Basse Seule, c'était un défi que vous vous êtes lancé en empruntant cet instrument mal considéré ?
Ouais, ça, c'est pas tant un défi qu'un terrain immense à défricher. Il y a pas trop d'une vie pour se consacrer à ça.
Mais pourquoi est-il si mal considéré, cet instrument ?
Non, je crois pas qu'il soit mal considéré. C'est juste que dans son histoire, il est pas forcément un instrument qui joue le premier rôle, par exemple, dans la musique classique. Il a fallu beaucoup de temps avant que, je crois même encore maintenant, pour avoir un poste de clarinettiste basse solo, il y a une épreuve à la clarinette si bémol. Imaginez que pour être violoncelle solo, il fasse passer une épreuve au violon, par exemple. C'est bizarre, quoi. C'est un statut, vous voyez.
Et vous êtes l'ambassadeur de la clarinette basse?
Bah, je suis un des ambassadeurs.
on retrouve aucun morceau avec de la clarinette basse chez Nino Ferrer?
Non, il n'y en a pas. J'ai écouté l'intégrale de Nino. Alors, à moins que j'ai mal écouté, mais je n'ai pas entendu.
Eh bien, il y en a un.
Non!
Non. On a tous eu peur, hein, sauf moi. Vous avez également interprété Jimi Hendrix, Curtis Mayfield, Hendrix, Mayfield, Ferrer, mêmes ingrédients?
La différence, c'est que le chant est francophone. C'est une très grosse différence. Mm-hmm. J'ai accordé plus d'importance dans mon travail sur Nino Ferrer, je dirais, aux paroles, en fait. J'ai plus d'attention là-dessus. Ça, c'est une grosse différence. Aussi, quand j'ai travaillé sur Curtis Mayfield et Jimi Hendrix, je travaillais avec un ensemble dont l'instrumentarium était complètement atypique, parce qu'il y avait un violoncelle, un zarbe et moi, la clarinette basse.
Oui, c'était un trio. Hein.
Voilà, un trio avec une formule de trio complètement originale, quoi. Donc, le travail d'adaptation est complètement différent. Là, je dirais l'instrumentarium de cet orchestre est plus courant, plus commun.
Plus classique. Hein.
Voilà, plus classique. C'est plutôt ça qui a changé la nature du travail aussi.
Quant à vous, Ornette, voici ce que vous faisiez, entre autres, avant d'être étiqueté Univers Nino.
Wrong. I wouldn't be on your side anymore.
J'adore. Bye bye, baby, bye bye. Ornette sur votre album Crazy, il y a 3 ans. Ornette qui était pianiste de jazz aussi.
Tout à fait. Ça a été un de mes professeurs quand j'étais jeune.
C'est ça que vous êtes rencontrés.
Tout à fait. Et j'avais
à
même
un
trio piano, contrebasse, batterie, piano préparé, beaucoup d'improvisation. Et on avait fait sa première partie. Voilà, un trio qui s'appelait Mop. Après, on a sorti Electric Mop, version électrique. Et après, en tournée, j'ai chanté. Voilà.
Et vous avez aussi collaboré avec le poète Mike Ladd, je crois.
Tout à fait, Mike Ladd. Donc, je suis une grande, grande fan. Et donc, je l'ai croisé dans ces milieux-là, de musique improvisée, d'improvisation, de jazz, qui est le milieu duquel, comme on dit, je viens. C'est pour ça que j'ai pris Ornette comme pseudonyme en tant que chanteuse. Je voulais que, de toute façon, je puisse parler d'Ornette Coleman en toutes circonstances. Et du jazz et de l'improvisation, et je l'ai appelé donc Mike sur le sable.
Votre rencontre avec Denis, elle remonte uniquement à ce projet d'univers Nino ?
Non, donc on s'est rencontrés en 2001, voilà, sur Les Enfants Arpenteurs. Il avait fait une
c'est une création pour les enfants des écoles. On a touché beaucoup d'enfants, à peu près 900. Et il y avait d'ailleurs aussi Théo Girard qui est avec nous, là, dans ce groupe Univers Nino, qui était là aussi. Et Ornette faisait partie de l'ensemble des musiciens qui accompagnaient les enfants.
Voilà, au piano préparé.
Ouais. La bande qui a accueilli autour de cette table un autre projet, réalisé aussi pour agrémenter les compositions d'un artiste de renom. Il s'appelle ce projet Anougaro. Il est en compagnie ici de Loïc Bussière.
J'étais pas partant pour faire tout un album hommage, parce que je fonctionne pas dans les hommages, tout, voilà. On voulait pas tomber dans des reprises. On a repris des textes inédits. On est allé chez Hélène Nougaro. On a choisi des textes. Puis on a, ce que je fais aussi, adapter des textes de Claude en anglais, faire des inédits, faire des réponses à ces textes en anglais aussi. Donc c'est vraiment un disque qu'on pourrait imaginer que Claude
aurait aimé
et aurait pu faire aujourd'hui peut-être.
C'est David Links donc qui fait partie de ce projet Anougaro, un disque que Claude Nougaro aurait aimé, aurait pu faire. Est-ce que c'est également ce à quoi vous avez pensé en vous lançant dans ce disque? C'est un disque aurait aimé Nino Ferrer.
Oh là là,
de Nicolas. Enfin,
j'en sais rien moi. En tous les cas, moi, l'idée, c'est on profite. Pompe généreusement l'énorme intuition de Nino pour construire notre son à nous. On a notre son. Et par ailleurs, ce qu'on lui rend en échange, c'est qu'on permet au public d'avoir une autre perception de l'œuvre de Nino, d'enrichir sa perception de son œuvre.
Je pense qu'il aurait été. On arrive avec une approche autour de sa musique en tant que musicien. On a tout écouté. Ouais. Et c'est un super musicien qui a des super albums instrumentaux. Et on est tous très sensibles à ça. Denis en tant que chanteur à faune et moi en tant que pianiste qui chante ses chansons. Voilà, j'ai sorti 3 albums instrumentaux avant de sortir en tant que chanteuse. Et Denis n'a sorti que des albums où il chante silencieusement tout ce qu'il joue. Donc peut-être voilà le fait je pense qu'il était, il se considérait pas comme unique auteur des cornichons de Mirza.
Nicolas et Ornette qui, en guise d'intro, prennent l'Inferno Canto, un poème de Dante que Nino Ferrer a mis en musique il y a 20 ans, l'année où il passait d'ailleurs par RFI. L'Enfer, la Divine Comédie, est-ce que c'est ainsi que vous voyez sa vie? Vous nous le direz tout à l'heure après les infos. Mais après l'écrivain italien Dante, partons au pays de Simenon où il y a le téléphone qui sonne. Allô Philippe Renaud?
Bonsoir Alain, bonsoir Ornette et Denis.
Bonsoir Philippe, même heure à Spa qu'à Paris, Spa où va se refermer la 21e édition des Francofolies belges qui a ouvert ses portes mercredi. Alors qu'en a pensé le Québécois que vous êtes?
Je dirais que c'est une bonne édition malgré tout, pour résumer, puisqu'il s'agit d'une 21e édition. Et vous savez, c'est forcément, c'est un peu la fatalité. Elle sera moins bonne que la 20e, qui était celle des gâteaux de fête et des confettis et des grandes têtes d'affiche. Alors, il faut bien dire qu'on a senti une petite réduction des effectifs sur le site, un peu moins de concerts. Quelques plus rares têtes d'affiche, mais quelles têtes d'affiche? Je pense ici à M et évidemment l'enfant de la patrie, Stromae, devant 10 000 personnes sur la place d'Hôtel de Ville à Spa. C'était assez formidable.
Alors, quelle différence entre les francopholies de Spa, celles de La Rochelle et celles de Montréal?
Je vous dirais qu'elles sont surtout au niveau de l'ambiance. C'est cette espèce d'esprit de fête, de kermesse, où tout est un peu possible, où les soirées se terminent avec le lever du soleil. On n'a pas tout à fait ça chez nous à Montréal, et vous le savez, Alain, vous êtes venu y faire un tour. Tout est assez encadré. Alors, c'est pas ça, c'est pas... Ça coïncide avec le 21 juillet, jour de fête nationale belge. Or, vous imaginez bien que les gens, ils sont en congé, ils ont envie de fêter, et tout ça échappe un peu au contrôle de l'organisation officielle des francopholies. Ça donne une magie à cet événement-là qu'on ne retrouve pas ici à Montréal.
Merci Philippe Renaud. Bonne fin de Franco-Belge et rendez-vous à la rentrée depuis votre Québec natal. Ce soir à Spa, entre autres, Bernard Lavillier, les gaufres belges, normal, en ce jour de fête nationale, DC's et Cats on Trees. Et puis du 8 au 14 septembre, les premières francopholies de Kinshasa, avec notamment Youssoupha, Lokua Kanza, Passy et Johnny Clegg. Nous serons là, bien entendu. Je disais qu'on allait vous retrouver après les infos pour cette question cruciale, mais en 20 secondes, est-ce que vous pourriez me dire si c'est l'enfer, la Divine Comédie, c'est ainsi que vous voyez la vie de Nino Ferrer?
No, non penso veramente.
Donc, je traduis, je ne pense pas tout à fait, vraiment. C'était de l'italien. Et vous,
non,
de Nicolas?
Non, moi non plus. Je n'ai pas cette vision-là. Je crois que c'est quelqu'un d'inspiré. Et puis,
inspiré, et vous l'avez connu. Inspirant, mystérieux, oui. Et en même temps très public et populaire et plein de secrets.
Juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes, nous reprendrons la voix Ferrer avec Cornette et Denis Colin en mini-concert et leur témoignage sur cet artiste hors du commun. Restez avec nous sur RFI dans la bande passante. Tout de suite, ce sont les infos. À tout à l'heure.